Ça va être plutôt une approche basée sur un vécu professionnel. Alors, mon but n'est pas de juger, ce n'est pas une recherche scientifique non plus. Il y a quand même quelques constats, quelques remarques, mais le but, c'est vraiment de travailler. Alors, Sylvie disait que la rencontre s'est faite plutôt bien lors de ce travail avec les animateurs, sauf que, comme l'a dit le collègue de Strasbourg tout à l'heure, nous, ça fait 10 ans qu'on travaille déjà, donc cette rencontre, elle s'est faite au fur et à mesure, elle s'est construite. Donc, je vais essayer de vous en parler un petit peu rapidement. Pour faire simple et pour reprendre un petit peu tout ce qui s'est dit ce matin, quand on parle, hein, quand on dit que dans la société, plusieurs institutions et plusieurs lieux contribuent à l'éducation des jeunes, quand on dit que les diverses institutions éducatives ne peuvent vivre enfermées sur elles-mêmes, qu'une émulation entre elles, une complémentarité sont nécessaires. Et si je vous dis aussi que les municipalités, parce qu'elles sont proches des populations dont elles sont issues et ont un rôle fondamental à jouer pour susciter et réguler le tiers-lieu, préciser les objectifs et articuler entre elles les diverses institutions éducatives, tout ça, c'est ce qu'on a dit un petit peu ce matin. Alors, ce n'est pas du tout de moi, même si je suis très convaincu et intimement convaincu du bien fondé. Elles sont empruntées à Philippe Mérieux et font partie de ce que lui appelait le tiers-lieu éducatif. Donc voilà un petit peu la logique. L'idée de notre approche, c'est de dire, est-ce qu'aujourd'hui on peut encore demander à l'école d'être responsable de toute l'éducation? Ou est-ce que c'est la charger inutilement? Est-ce que, hors de la famille et de leur école, les jeunes, est-ce qu'ils ont besoin d'un autre lieu éducatif? Voilà. Alors celui-ci, ce point, il est un petit peu, on va dire, biaisé, puisque si je vous parle du périscolaire, on est quand même dans l'école encore, mais on est sur une école, dans l'école, autre que l'école. Je vais faire un petit retour sur l'intitulé de départ, l'accompagnement à la scolarité. Alors ça, c'est plutôt mon point de vue et mon approche à moi. Traditionnellement, de ce que je vois de l'accompagnement scolaire, c'est une offre pensée comme la nécessité de retravailler les programmes scolaires sous une autre forme, d'accord. Ici, je pense qu'autour de la table, tout le monde l'a fait ou l'a refait ou le fait et est convaincu. Mais fondamentalement, elle reste quand même attachée, orientée ou cadrée par une logique scolaire. Voilà. Donc, moi, mon idée est de dire, est-ce que réussite scolaire et accompagnement scolaire, quelque part, c'est pas dépasser le cadre de ce que l'on connaît pour imaginer d'autres voies. Et donc, je peux enfoncer pour certains des portes ouvertes. Pour d'autres, ça peut être utopie de vouloir créer une réussite scolaire en dehors de l'école. Ça peut s'entendre. Limite, ça peut être un peu des foutaises. Mais on en a parlé ce matin. L'idée de coéducation chemine. Et à Dijon, ça fait 10 ans qu'elle chemine. Favorisant le vivre ensemble. C'est important le vivre ensemble parce que c'est l'objet principal pratiquement du projet politique porté par la ville en 2004. Ça reste un des éléments fondateurs du projet politique de la ville de ces dernières années. Et plus ça va dans les pratiques et dans mon expérience de vie professionnelle autour et dans l'école, plus je m'aperçois que ce vivre ensemble et ce mieux vivre ensemble est une question fondamentale de cette réussite scolaire. Et favorisant le vivre ensemble, surtout le mieux vivre à l'école, mais l'école n'est vue ici non plus comme l'école traditionnellement, mais plutôt comme un lieu et un temps, c'est-à-dire le temps d'arrivée de l'enfant et le temps de départ de l'enfant. Donc du matin vraiment avant l'école et du soir après l'école. Il y a une petite définition de l'éducation, enfin une définition, pas forcément une petite, définition de l'éducation ce matin. Moi, je voulais en rajouter une différente ou complémentaire. Elle vient du site universcience.fr, c'est extrait de leur lexique. La coéducation peut être définie comme une forme d'éducation qui privilégie l'apprentissage en autonomie par l'expérience collective et la collaboration. Elle ne se limite pas par l'interaction entre l'enfant et le média censé permettre l'apprentissage, mais aussi s'appuie sur l'émulation du groupe et prend en compte la situation d'apprentissage dans son ensemble. Le principe de coéducation met l'accent sur le rôle de chacun de ceux qui entourent un enfant dans le processus éducatif, parents, enseignants, animateurs. La coéducation est un processus interactif et collectif qui favorise la socialisation de l'enfant. Alors, on l'a dit ce matin et je le redis un petit peu cet après-midi, par l'expérience collective et la collaboration. en travaillant avec Sylvie, Stéphane et avec mes collègues de l'éducation nationale, on s'est aperçu que le travail collaboratif, collectif à l'école était encore une forme de travail qui était difficilement appliquée et qui posait beaucoup de problèmes aussi à certains enseignants, notamment les novices, puisqu'on a travaillé sur la logique des nouveaux enseignants. Par contre, la logique de l'éducation populaire qui est basée, elle, sur, et je pense que l'intervenant est Franca derrière pourra le redire, mais on est sur le collectif, sur la capacité et sur la perception de la possibilité d'eux dès le départ, l'animation peut apporter des compléments par rapport à ce qu'on a dit depuis ce matin. Alors, 10 ans d'expérience. Dijon, dans le cadre de son PEL signé en 2001, décide d'étendre l'offre périscolaire à toutes les écoles publiques. Donc je vais vous faire un bref rappel de ce que ça a été en 2004. Ça fera peut-être écho à ce qui a été vécu en 2013 pour les collectivités qui sont parties en 2013 pour la réforme des rites, voire en 2014. Mais nous, avant 2004, l'offre, elle était éparse et non homogène. En élémentaire, c'était une offre qui était déclarée auprès du ministère de Jeunesse et des Sports, donc, c'est-à-dire des accueils collectifs, enfin aujourd'hui accueil collectif de mineurs, mais à l'époque à LSH, accueil loisirs sans hébergement, et qui était géré par une association départementale, les pupilles de l'enseignement public, mais sur certaines écoles seulement, uniquement. Il n'y avait que 15, alors il y a 80 écoles à Dijon, 40 maternelles à peu près, 40 élémentaires. À peu près 10 000 enfants scolarisés, je parle des écoles publiques, hein, bien sûr. Mais il n'y avait que 15 écoles élémentaires sur Dijon sur 40 qui avaient la possibilité de faire une offre de garde le matin. Et quand je dis offre de garde, je le fais exprès, quitte à égratigner mes collègues de l'animation. J'en reviendrai après. En maternelle, l'offre, elle était dans toutes les écoles. Par contre, toutes les écoles maternelles avaient un mode de garde le matin, un petit peu le soir. Par contre, c'était une garderie, clairement, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de déclaration auprès de Jeunesse et Sport. Il n'y avait pas les contraintes réglementaires qui s'imposent, c'est-à-dire le projet éducatif, le projet pédagogique, le respect des règles des taux d'encadrement et de la formation des personnes. Il y avait des disparités réelles, c'est-à-dire qu'on avait un accueil partout en maternelle, éclaté en élémentaire, donc quid des familles qui avaient un enfant en élémentaire et en maternelle. Du coup, en élémentaire, il pouvait être gardé si c'était dans la bonne école. Si ce n'était pas, ben, il fallait chercher peut-être possibilité de laisser l'enfant en maths, mais pas en élème. Une tarification et des horaires complètement différents. C'est-à-dire que l'organisateur associatif avait fait sa propre tarification et la collectivité faisait la sienne. C'était deux tarifications différentes, deux facturations différentes. Et en plus de ça, la tarification en élémentaire, il y en avait deux. Si les enfants allaient en pause méridienne, donc en restauration, ils avaient une tarification, une facture de la ville. Si c'était, ils allaient après en périscolaire, ils avaient une facture différente, une pour le matin, une pour l'après-midi. La gestion de la pause méridienne était problématique entre les maternelles et les élémentaires, et la responsabilité de ce temps était dévolue au directeur d'école. Ça, c'est important, parce qu'en 2004, la pause méridienne, c'était les directeurs d'école qui avaient cette mission et qui était mission octroyée et validée par la ville, et donc une offre qualitative différente. 2004, la création du service périscolaire, et donc le rouleau compresseur se met en route et on arrive avec nos gros sabots. Harmonisation sur tout le territoire dijonnais. Bon, un accueil partout. Par contre, là, les 80 écoles ont un accueil périscolaire, soit en regroupement, c'est-à-dire que s'il y a des endroits où il y a peu d'enfants en maternelle et en élémentaire, on regroupe les enfants sur le même lieu, soit séparer un accueil maternel et un accueil élémentaire. Aujourd'hui, pour 80 écoles, il y a 62 accueils. Une reprise de la collectivité de l'ensemble du service périscolaire, mais un conventionnement associatif. La ville n'a pas souhaité, entre guillemets, exclure le partenaire associatif de par son expertise et son expérience historique et par sa volonté de travailler en lien avec les associations. Donc on a conventionné avec l'association pour avoir des animateurs mixtes, ville et associatif. En 2004, on avait pratiquement une casquette sur la tête des gens, c'est-à-dire qu'en fonction de qui on avait face à nous, on savait très bien si c'était quelqu'un qui était historiquement issu de l'animation ou si c'était quelqu'un qui était plutôt un fonctionnaire qui découvrait l'animation et qui passait de la garderie à l'accueil périscolaire. Aujourd'hui, je défie quiconque, et voire les parents nous le disent régulièrement, à aller sur le terrain pour nous dire qui est animateur associatif et qui est animateur de collectivité. Mais 10 ans ont passé. Une tarification et un taux d'effort et des horaires homogènes sur l'ensemble du territoire, un temps déclaré, sur l'ensemble du territoire et une professionnalisation. Donc c'est là où, ça va, où je vais intervenir un peu plus. C'est-à-dire que la ville a fait le choix de découper le territoire en 9 pôles géographiques. Et à la tête de chacun de ces pôles, il y a un directeur périscolaire. Ce directeur périscolaire est forcément titulaire d'un diplôme professionnel. Je reviendrai tout à l'heure par rapport à ça, parce que dans une des rencontres que j'ai faites avec l'éducation nationale sur le territoire dijonnais, je suis intervenu pour préciser le monde de l'animation et quels étaient les différents diplômes de l'animation, parce que peu d'enseignants comprenaient et connaissaient, savaient que le diplôme de l'animation, c'est un champ professionnel très vaste, avec des diplômes qui passent du BAPAT, parce que le BAPAT est le premier diplôme, aujourd'hui il y a le CQP, mais le BAFA et le BAFD n'est pas un diplôme, il faut le savoir, hein, c'est un brevet, mais c'est la porte d'entrée traditionnelle à l'animation. Donc on va dire un diplôme qui démarre au niveau 5, mais qui peut aller à Bac plus 5, voire plus, puisqu'on peut faire des liens et des passerelles, entre autres avec anciennement le DSTS et maintenant le DIS, diplôme d'état d'ingénierie sociale. Donc des directeurs périscolaires, titulaires minimum d'un BATEP ou d'un BPGEPS, ou plus, DEFA, DUT carrière sociale, aujourd'hui DGEPS. On a mis en place sur chacune des écoles, donc le directeur, comme vous le comprenez, il est sur un territoire, il est itinérant, il a la responsabilité de l'ensemble du secteur. Cette approche, ce découpage territorial a fait évoluer la réglementation jeunesse et sport aussi, notamment en Côte d'Or, puisqu'on a, on a mis en place expérimentalement en 2004 et 2005 une réglementation qui s'appelait Accueil de loisirs Marguerite. Alors c'est très joli. On a sur une carte de Dijon, on a des patates, hein, des patates définies. On a des marguerites au niveau de la déclaration. Et moi, en tant que coordinateur, je suis le jardinier de la ville. Donc voilà, c'était très agréable, surtout sur l'environnement aujourd'hui, la notion d'environnement. Mais toujours est-il que cette déclaration en marguerite, elle s'est faite de manière complètement expérimentale et c'est devenu national après. Donc c'est la possibilité de déclarer des accueils, non plus sur un seul site, mais sur des sites éclatés sur le territoire, avec une responsabilité administrative bien fixée sur le territoire. Donc comme le directeur étant itinérant, on s'est posé la question de savoir mais qui allait faire l'interface à l'école. Donc on a créé un poste qui s'appelle le poste d'adjoint éducatif. C'est un poste ouvert au personnel de BFD minimum, mais aujourd'hui BPGEPS, pour certains, ceux qui en font la demande. C'est l'interface entre l'école, la périscolaire et la famille. Et pour nous, c'est le pivot de la politique éducative sur le territoire, sur la structure. C'est vraiment l'agent qui fait le lien au quotidien avec l'école et le périscolaire, et notamment son directeur. Et après, effectivement, en fonction du nombre d'enfants, un ou plusieurs animateurs. Alors pourquoi ce petit bref rappel? C'est pour dire que dès 2004, la ville a fait le choix de professionnaliser l'ensemble de son périscolaire. Tous les animateurs qui travaillent à la ville de Dijon, il y en a 200, pour moitié associatif et pour moitié ville, sont tous au minimum titulaires d'un BAFA. Aucun animateur à la ville, dans le cadre du secteur périscolaire, n'est employé sans le diplôme ou sans le brevet. Le partenaire associatif offre la possibilité à des personnes très motivées de venir travailler dans un premier temps sans diplôme et les forme dans l'année. Puis nous, par le biais des nouvelles conventions, contrats à venir et autres perspectives, apprentis aussi, on en accueille. Mais normalement, une personne qui travaille chez nous, elle est déjà à la base titulaire d'un diplôme. Donc pour piloter tout ça, un coordonnateur pédagogique sur le territoire, donc issu du monde de l'animation aussi et de l'éducation populaire, des phasiens de formation et création d'un service périscolaire en bonne et due forme avec deux gestionnaires périscolaires, un coordonnateur et un directeur de service. Voilà un petit peu l'offre, on va dire, humaine sur le territoire, et je ne parle pas des 1200 personnel vacataire embauché sur l'année pour gérer la pause méridienne pour une bonne centaine des enseignants, des ATSEM en plus de leur temps de travail, des AVS-EVS, des demandeurs d'emploi ou des retraités de l'éducation nationale puisque nous en avons de plus en plus, Et puis, pour la grande majorité, je fais le lien avec ce qui avait été dit tout à l'heure par rapport au personnel étudiant qui n'avait plus de poste. Nous, on embauche pour à peu près 800 à 900 étudiants par an. Et on peut leur proposer la possibilité de travailler 12 heures par semaine avec nous, voire plus. En 2004, donc, une professionnalisation des acteurs, c'est-à-dire des animateurs issus du monde de l'animation, donc du coup avec toutes leurs pensées et leurs idées et leur logique. Donc une nouvelle dynamique s'installe et une vraie réflexion autour du sens et des objectifs éducatifs prend forme. Tout en répondant aux objectifs du PEL, la professionnalisation des acteurs a engendré des évolutions et placer ou replacer l'enfant au cœur de nos préoccupations. Alors c'est très important parce que en 2004, c'était typiquement une position d'animateur. C'était pas une position de l'école, même si fondamentalement l'école place l'enfant au cœur de ses préoccupations, mais pas de manière individuelle, pas de manière plus individualisée comme on peut le faire, et pas de la même logique. Donc du coup, on se retrouve déjà avec un petit paradoxe entre notre position et puis éventuellement l'organisation de l'école. Alors concrètement, en tant qu'animateur, si la question elle s'est posée, c'est lorsque je fais un jeu, une animation, je la propose dans quel objectif, dans quel but, qu'est-ce que je cherche à voir, qu'est-ce que je cherche à proposer, qu'est-ce que je cherche à développer, à quel besoin physiologique, cognitif, affectif répond cette proposition. À quelle étape de ce développement se situe-t-il ? Est-ce que je peux faire cette proposition à un enfant de 3 ans ? Est-ce que je peux la faire à un enfant de 6 ans ? Si ce que j'ai envie de proposer, c'est à un enfant, c'est, se propose plus spécifiquement à des enfants de 6 ans, comment je peux adapter mon activité pour que ce puisse être adaptable à un enfant de 3 ans ? Quel accompagnement ? Enfin voilà, tout ça. Fondamentalement, c'est pas changer beaucoup les pratiques, si ce n'est que ça a obligé les gens à se projeter. Et donc à défendre leur mission au travers de la dynamique de projet. Dynamique de projet au sens de Houssay, c'est-à-dire vu comme une dialectique permanente entre la pratique et la théorie éducative. En gros, à un moment ou à un autre, on a demandé aux gens de faire exactement la même chose, un peu plus que la même chose, si je peux reprendre des phrases de Vaslavik, mais de dire à un moment donné, c'est bien quand même de réfléchir sur ce que l'on souhaite faire et réfléchir dans le jeter en avant et de se mettre en perspective et d'imaginer ce que ça va avoir comme débouché dans le futur. Et pas débouché à titre personnel, mais débouché en titre de développement de l'enfant. Voilà. Cross, en 94, a défini la dynamique de projet comme un paradigme valorisant l'activité concrète et organisée d'un sujet soucieux de se donner un but et les moyens adaptés pour l'atteindre. Donc, en gros, une proposition pédagogique qui permet de concrétiser une attention, un but, et qui prévoit un certain nombre de moyens pour l'atteindre. Il se précise sous forme de programmes d'activités successives à travers lesquels ces moyens seront mis en œuvre. Alors, pour ceux qui voient les animateurs au quotidien, en 2004, il y a 10 ans, de demander aux animateurs de faire la même chose, mais de donner du sens à ce qu'ils font et de pouvoir l'exprimer, parce que le but de donner du sens, c'était très bien, mais c'était aussi de communiquer au travers d'un savoir-faire. C'était de mettre en avant des perspectives et des compétences. Le travail à l'époque, c'était de dire « Oui, mais on le fait tous les jours, on sait le faire, il n'y a pas de problème, on maîtrise. » Effectivement, vous maîtrisez très bien ça, mais vous maîtrisez peu le sens. Et donc la question, c'était de dire « Moi, je suis papa, je suis maman, je viens vous voir, je vous demande pourquoi et dans quel but vous mettez ça en place. » Donc à partir d'aujourd'hui, vous devez être en mesure de pouvoir l'exprimer, de l'exprimer clairement, simplement. Mais si je mets un jeu collectif en place dans une cour d'école, l'objectif premier, c'est de permettre aux enfants de vivre ensemble et de se côtoyer en respectant les règles. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le respect des règles, c'est une des dimensions extrêmement importantes de réflexion, voire des fois de dissension entre l'école et le périscolaire. Respecter les règles, respecter chacun, le cadre et les limites, et puis aussi accepter l'autre. Donc moi, de savoir que déjà un animateur est capable de me dire cela et qui est en mesure de l'exprimer auprès des familles, ça a été pour certains et pour le terrain une vraie révolution. Donc, le basculement s'est effectué dans l'anticipation et dans la compréhension de son territoire, dans et autour de l'école et de ses possibilités. Voilà. En 2004, un véritable engouement doublé de vraies craintes pour les animateurs s'est mis en place, une reconnaissance de mon métier. Effectivement, on avait des animateurs qui venaient, qui étaient affranchis de plein de choses. Ils arrivaient en disant « Oh, coucou, à l'école, j'arrive. Donc à partir d'aujourd'hui, on va mettre ça en place. Je suis animateur professionnel et s'il vous plaît, regardez-moi comme tel. » Voilà. Donc une fois que ça c'est dit, il y a du travail à faire. Une ouverture sur l'extérieur, souvent en lien avec le développement de l'enfant. Hein. L'enfant qui, peu à peu, s'ouvre au monde, au fur et à mesure qu'il se construit, qui grandit. Au départ, un peu égocentrique, et puis après, petit à petit, s'ouvre sur les autres et le monde. Alors, effectivement, une vraie satisfaction des familles, et peut-être la rançon de la gloire chez nous, on est en train de on est difficilement mesurable aujourd'hui, si ce n'est qu'on est en train de refuser des enfants aujourd'hui. Avant, les enfants étaient déposés... au périscolaire, à la garderie, parce que c'était un mode de garde. Et quand j'ai dit tout à l'heure que ça égratignait les animateurs encore aujourd'hui, ça, j'aime bien les égratigner par rapport à ça, parce que malgré toute la qualité éducative que l'on va mettre derrière nos actions, derrière toute la professionnalisation qu'on peut faire, il faut entendre que pour un parent, le périscolaire restera un mode de garde. Maintenant, qu'est-ce que l'on fait dans ce mode de garde ? Est-ce qu'on en fait de la garderie ? Est-ce qu'on laisse les enfants jouer à la baballe ? Ou est-ce que derrière, on met des intentions éducatives, pédagogiques et qu'on fait un vrai travail professionnel ? Donc ça, ça a été un énorme discours interne et faire prendre conscience aux gens que le mode de garde, ce n'est pas péjoratif en soi et que 10 ans après, on a encore des parents qui viennent nous voir en disant « je vais chercher mon enfant à la garderie ». Bon, effectivement, quand on est professionnel d'animation, c'est un peu embêtant de l'entendre, ça gratte un peu, mais malgré tout, c'est une vraie réalité. Au début, les enfants venaient parce que les parents les déposaient, ça c'est clair. Aujourd'hui, les enfants viennent parce qu'ils ont envie de venir. Alors là, par contre, ça pose problème. Non, je blague, hein, c'était juste une boutade. Mais ça pose problème pour les parents quand même, parce qu'il y a des parents où on leur demande gentiment, enfin, leurs enfants, leur progéniture, leur demande gentiment de partir. Vous venez trop tôt, revenez plus tard, j'ai pas fini, je veux venir demain. Donc, en soi, une vraie réussite. Alors là, c'est le professionnel de l'animation qui va parler. Moi, je suis extrêmement content et satisfait de cette réussite. Quid des rythmes aujourd'hui, puisque plus l'enfant reste vers nous, plus il reste longtemps à l'école. Donc effectivement, dans toutes nos réflexions aujourd'hui, il est important de réfléchir sur, effectivement, de savoir que les enfants ont envie de venir nous voir, c'est une bonne chose, mais de savoir que les enfants peuvent avoir envie de nous voir tous les jours jusqu'à 19h, eh ben, peut-être qu'à un moment donné, on peut réfléchir autrement. Voilà, ça c'est une évolution aussi à prendre en compte. Alors après, il y a le monde enseignant en 2004. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les directeurs d'école, entre autres, géraient la pause méridienne. À partir de septembre 2004, moi je suis arrivé le 1er septembre 2004, je ne sais pas ce qui a été dit avant, fin juillet, fin juin 2004, parce que les directeurs d'école sont réunis traditionnellement pour une grande réunion pour expliquer un peu les perspectives. Est-ce qu'à ce moment-là, l'or a été dit qu'en septembre, il n'avait plus la direction de la pause méridienne ? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça a été plutôt tendu, entre autres pour ça, mais aussi pour le fait que derrière, on avait la perte de la direction pour le temps du midi pour les directeurs, d'accord, mais une volonté affirmée très forte autour de valeurs et d'un statut professionnel des animateurs qui ont mis leurs gros pieds, leurs gros sabots au sein de l'école, et qui, des fois, l'ont fait avec beaucoup, beaucoup de tact. Voilà. Donc, l'école est un lieu, par définition, sacralisé. J'aime bien le dire et je me défends, parce que je me bats pour garder cette notion de l'école qui, pour moi, est fondamentale. À Dijon, par exemple, nous n'utilisons aucune salle d'école, de classe, pour faire le périscolaire. Nous le refusons. Je me le refuse et je me bats pour trouver d'autres solutions. Alors, on a la possibilité aujourd'hui. Hein. C'est facile, hein. Je ne jette pas la pierre aux autres. Hein. Par contre, une salle de classe reste une salle de classe. Ce n'est pas une salle multi-activité. Voilà. Et ça, c'est lié à l'histoire aussi. On a eu en 2004 des salles mutualisées. Et ces salles mutualisées, on s'est aperçu que quand le périscolaire venait et que l'enseignant revenait le lendemain, c'était une salle d'activité. Et puis, quand les animateurs arrivaient, c'était une salle de classe. Donc, c'est vrai que c'était problématique. Et puis, je parlais tout à l'heure du cadre et des règles et des limites. Il me semble que la classe doit rester pour l'enfant une classe, pas un lieu multi-usage. Voilà, c'est encore une pensée peut-être un peu archaïque de ma part, mais j'y crois encore fondamentalement et on se bat pour ça. Mais l'école donc est un lieu sacralisé, uniquement axé autour de la notion d'apprentissage, mais surtout didactique, avec une procédure précise. En 2004, on arrive et l'école, entre guillemets, en termes de bâti, devient un lieu de coéducation. Et le monde enseignant doit, on va dire, dans le sens, le vrai sens du terme, par obligation, parce qu'ils n'ont pas le choix, ils doivent apprendre à vivre avec des animateurs, eux affranchis et en plus soucieux de reconnaissance. Donc voilà, le bastion étant posé, 2004, c'était ce qui s'était passé. Mais ce qui était encore parfois inacceptable en 2004, qu'en est-il aujourd'hui ? Effectivement, 10 ans ont passé. Aujourd'hui, d'année en année, les rencontres et les projets ont tissé d'autres relations professionnelles. Alors, je vais donner des exemples, hein, mais après, je reprendrai sur d'autres choses et sur les perspectives. Aujourd'hui, on a une place et une participation au conseil d'école. Le conseil d'école, statutairement, réglementairement, est un lieu où le périscolaire n'est même pas nommé. C'est sur invitation. Aujourd'hui, on intervient toujours sur invitation, hein, c'est normal, mais on intervient sur 80-90% des écoles sur chaque conseil des classes. Conseil d'école. On intervient sur toutes les réunions, quasi toutes les réunions de rentrée. La réunion de rentrée en école primaire est importante. C'est la réunion pour les enseignants se présenter le projet d'école, les perspectives. Et du coup, on présente aussi le projet périscolaire et les perspectives et le lien avec l'école. Des temps de concertation avec les enseignants qui peuvent être multiples et variés, régulièrement sur des réunions éducatives, plutôt disciplinaires. Voilà. Mais malgré tout, on a notre vraie place maintenant. Une réunion éducative, à la base, c'est l'IEN. Alors, je le dis sous couvert de mes collègues, hein, puisque c'est ce que j'ai vécu, mais l'IEN, l'enseignant rattaché à l'enfant, le ou la psychologue scolaire, éventuellement les autres personnels, psychologues RASET s'ils interviennent, et les parents. Donc aujourd'hui, il y a le périscolaire qui est associé, puisque la plupart du temps, quand il y a un problème à l'école avec un enfant ou au périscolaire, cette relation et une réflexion se fait avec l'école et les enseignants avant d'apporter des actions, et notamment les RTIP, recueil d'informations préoccupantes, ex-signalement, sont faits de plus en plus conjointement et co-signés école, éducation nationale et ville. Une gestion et un choix des activités USEP, des projets conjoints, différentes choses se sont faites au fur et à mesure des années. Alors, quand j'en parle à certains de mes collègues en 2013 et quand j'en parle à certains de mes collègues en 2014, des fois, ça leur fait... c'est un peu pour eux... alors, je dis pas que Dijon est... au contraire, on est très perfectible et on a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire. Mais c'est vrai que c'est une avancée très importante. Aujourd'hui, 2014, si je fais un bref retour à mon traduction et aux propos de Mérieux, je suis convaincu que l'école ne peut porter seule l'éducation de tous les enfants. Et ça me fait plaisir parce que tout ce que j'ai entendu ce matin me prouve que je ne suis pas un irréductible gaulois. Les options pédagogiques de Freinet, de Houai, si je vais en passer par eux, pour eux, une option, une pédagogie et une construction d'un enfant à l'école, ça ne se résume pas à l'inscription des enfants dans un programme scolaire ou dans un cursus. Pour eux, l'apprentissage des savoirs scolaires s'inscrit dans l'histoire singulière, ce qui a été dit ce matin, de chaque enfant, mais à travers l'élaboration, la conception de projets de création collective. La classe, mais plus largement l'école, devient alors un lieu de production où les enfants dépassent, je l'ai dit ce matin, le métier d'élève, sans obligation de s'y confirmer, et deviennent plutôt, ce que j'aime bien cette appellation, apprentis. Apprentis chercheurs, apprentis journalistes, apprentis sportifs, apprentis artistes, apprentis pénibles. Voilà, parce que l'éducation passe aussi par la pénibilité. Par son approche résolument tournée sur les capacités, les aptitudes, donc là je fais un lien avec l'éducation populaire, parce qu'on part du principe que par le postulat de l'éducabilité de tous et par ses pratiques d'agir collectif, l'animation, mais plus largement l'éducation populaire, se place à l'interface entre les savoirs institués et les savoirs informels. Elle propose des espaces de créativité, de reconnaissance des capacités de chacun, mais aussi des réinvestissements de savoir. Et là, quand je dis ça, je fais le lien avec ce qui a été dit ce matin, notamment sur la réussite scolaire. Et là, je questionne, n'y a-t-il pas une opportunité à saisir pour changer notre regard sur des pratiques et à faire se rencontrer des acteurs dans le respect de leur professionnalité ? Derrière moi, et ça l'est toujours, le travail que nous avons engagé était un travail qui a été basé et ça nous a fait vraiment réfléchir. On a découvert qu'on avait le même questionnement. Quand vous entendez à un moment donné, mais qu'est-ce que je peux faire avec un groupe de 25 ? Vous entendez un animateur, vous entendez un enseignant. Comment je vais pouvoir les faire participer tous ? Vous entendez un animateur, vous entendez un enseignant. Mais comment je vais pouvoir faire en sorte qu'ils soient tous captivés ? Quelle est mon introduction ? Comment je vais faire en sorte de... Voilà. Et on s'est aperçu, en réfléchissant ensemble, que ces problématiques-là, eh ben, elles existaient aussi bien dans le monde enseignant que dans le monde de l'éducation nationale. Donc on a essayé de dépasser les clivages liés aux professions et à cette frontière, et pour se dire qu'à un moment donné, si on a les mêmes problématiques, est-ce qu'on ne pouvait pas réfléchir ensemble sur qu'est-ce qu'on pouvait faire pour répondre à cette problématique ? Voilà. Ne serait-ce pas là aussi une forme nouvelle d'accompagnement à la scolarité ? Voilà, c'est ma question. L'idée, elle est là. Pour nous, pour faire très simple, hier encore, donc en 2004, on avait des enfants qui étaient chahutés par deux logiques différentes, deux mondes différents. On avait l'école, on avait le périscolaire, et au milieu, vous aviez des fils barbelés et un portail pour qui permettait aux enfants de passer de l'un à l'autre. Je le fais exprès, je caricature mes propos fortement. Mais on avait des logiques qui s'entrecroisaient, et qui des fois se trouvaient, mais souvent elles s'entrechoquaient, et des fois en plus des fois, au mieux, elles s'acceptaient et carrément, elles se rejetaient. Voilà. Aujourd'hui, et je l'ai dit ce matin, la réforme des rythmes, entre autres, mais le travail mis en place, c'est une révolution qui redéfinit, pour moi, les cartes du monde éducatif au niveau de l'école. Mais quand je mets l'école, je remets bien le contexte avec l'ouverture du monde associatif avec l'école et du monde collectivité territoriale. Aujourd'hui, à Dijon, le PEDT est construit et débattu avec tous les directeurs d'école, tous les directeurs des accueils collectifs de mineurs, lors de réunions co-animées, co-dirigées par l'Éducation nationale et la ville de Dijon. Un IEN et un responsable de service pilotaient les réunions par secteur. Un magistère autour du périscolaire, enseignant animateur, mieux se comprendre pour travailler ensemble dans l'école. Un Léa, un lieu éducatif associé, a été mis en place pendant 3 ans. Donc là, je vais laisser plus dans les questionnements, si vous en avez autour, Sylvie et Stéphane plutôt en parler. Ils seront mieux placés que moi, même si je l'ai vécu. Un travail partenarial autour de la question centrale enseignant-animateur. Donc qu'est-ce que cela me fait de faire des sciences ? Parce que ce matin, j'ai entendu que la porte d'entrée pour la réflexion avait été faite par... Un certain item, je ne me rappelle plus, je m'en excuse. On a réussi, nous, à travailler autour de la science. C'est paradoxal, parce que la science, c'est un sujet, par définition, qui est purement scolaire. Il y a 8 ans en arrière, on a mis en place un défi scientifique par la ville de Dijon qui s'appelait Jules Verne vu par les enfants. J'ai 8 écoles, 4 groupes scolaires qui sont venus me voir en me disant « Vous n'avez pas à faire ce projet, Jules Verne, c'est l'école. C'est pas l'animation. » Ben, on leur a dit « Désolé, on va essayer de vous montrer que Jules Verne peut être fait par l'animation aussi. » Par contre, la structure qui était engagée dans ce projet, qui venait d'une de ces écoles, ne l'a pas fait. Voilà, on a ménagé un peu la chèvre et le chou. Je ne sais pas si c'est exactement comme ça. Des projets qu'on construit entre l'école et le périscolaire. On a un projet co-construit, je vais même plus loin. On a aujourd'hui, en septembre, les nouveaux projets d'école vont démarrer en Côte d'Or. Alors je pense que c'est national, il y a dû y avoir une dispense pendant quelques temps. On a plusieurs écoles et plusieurs groupes scolaires. On va travailler le projet d'école avec le périscolaire. On va construire ensemble les objectifs et les activités. Un club science est en train de se mettre en place sur une école, voire deux. Mais une sûre, et un club science, c'est-à-dire un club science réfléchit du point de vue de l'école et réfléchit du point de vue du périscolaire avec une vraie complémentarité et des vraies interventions mixtes. Voilà, on ne sait pas encore si ça sera sur le temps transversal qui rejoint les deux mondes, ou est-ce que ça sera et à l'école et au périscolaire, mais des choses se précisent. Et on a travaillé autour de la vidéo. Effectivement, là, vous avez l'exemple. Et on ne le passera pas hein, parce que l'introduction n'est pas terrible. Par contre, on va travailler avec ma collègue qui gère le CDRS, donc le Centre départemental de ressources en sciences. En Côte d'Or, nous avons la chance d'avoir un CDRS qui n'est pas uniquement qu'un lieu de ressources, mais un maître formateur chargé des sciences, l'anime. Et donc, on va travailler ensemble sur la vidéo. On a été un peu formés pour ça. Et on va travailler sur des problématiques précises d'école périscolaire. Qu'est-ce que ça fait d'accueillir un enfant ? Comment on accueille un enfant en maternelle ? Notre place, notre rôle. Que dire à un enfant qui dysfonctionne ? Qu'est-ce qu'on met derrière ? Voilà, il y a plein d'idées, plein d'hypothèses. Et ce travail vidéo se fait en confrontation croisée. Et après, on va mélanger les enseignants et les animateurs pour discuter ensemble sur ces problématiques. Je voudrais juste terminer mon propos pour dire que je vais rappeler Covey. Pour Covey, il y a deux manières de voir le monde. La première, c'est en étant réactif, et la deuxième, en étant proactif. Ressasser, perdre de l'énergie, à tenter de changer ce qui ne peut l'être, au lieu de focaliser sur son attention sur ce qui peut bouger, apporter de la joie et de la douceur. Et en gros, lui, il dit comment passer du cercle des préoccupations ou du cercle des influences. Il y a deux cercles qui existent, je viens de le dire. Il y a certaines personnes qui se plaignent en permanence sur des choses sur lesquelles ils ne peuvent pas agir. Ah, cette réforme des rythmes, mais pourquoi elle est là ? Mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Mais qu'est-ce qu'on était bien avant ? Mais pourquoi ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Et ainsi de suite. Je le fais exprès. On a eu le même discours au niveau des animateurs. Mais qu'est-ce qu'on nous embête avec ces temps de nappe, ce truc, cette concertation avec l'école ? Mais qu'est-ce qu'on fait avec ça ? On était très bien avant. Voilà. Effectivement, on peut rester dans cette dynamique-là et puis voir et fermer les yeux et éviter de progresser et de quitter le monde réaliste. Où on peut, à un moment ou à un autre, focaliser son attention sur des choses précises, essayer de se focaliser sur les leviers sur lesquels on peut agir. Donc c'était, pour finir, ma perspective et celle de beaucoup, je pense, d'acteurs l'éducation nationale, en Côte d'Or, mais aussi ailleurs, parce que depuis que je viens ici, j'arrête pas d'en prendre plein les mirettes et je vous en remercie. Je l'ai déjà dit, mais je le redis, il faudrait que je fasse venir des animateurs vous rencontrer ici pour... entendre qu'il y a vraiment des problématiques qui sont vraiment transversales et des vraies logiques. Donc moi, l'idée, c'est, pour moi, demain, c'est vraiment des logiques d'acteurs au service d'un projet collectif, la réussite des enfants, pour construire ensemble l'école de demain. Voilà. Merci.